Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous depuis le studio 9 de la Voix de l'Amérique ici à Washington. Au sommaire de cette édition du vendredi 7 juillet 2023, des robots humanoïdes disent pouvoir diriger le monde, bien que les humains, ils ont pris la parole ce vendredi lors d'une conférence de l'ONU à Genève. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko promet des élections dans un chaos indescriptible si sa candidature à la présidentielle de 2024 est empêchée. La police kényane fait usage de gaz lacrymogène contre le convoi de l'opposition à Nairobi en marge des manifestations contre de nouvelles taxes. MSF réclame la reprise immédiate de la distribution d'aide alimentaire en Éthiopie, suspendue depuis juin. Au Soudan, une ville proche de la capitale, attaquée et pillée par les paramilitaires. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, prône à Pékin une concurrence saine entre la Chine et les États-Unis. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. On parle de ces robots parmi les plus avancés au monde qui ont participé au sommet mondial sur l'intelligence artificielle organisé par l'Union internationale des télécommunications. Les robots disent qu'ils peuvent diriger le monde et sans état d'âme, qu'ils ne comprennent pas les émotions humaines. N'est-ce pas, Mohamed Onfra?
Ces robots parmi les plus avancés au monde ont participé au sommet mondial sur l'intelligence artificielle organisé par l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, une agence de l'ONU spécialisée dans les technologies. Quelques 3000 experts, dirigeants et représentants d'entreprises ont discuté de la nécessité d'élaborer des règles garantissant que ces nouvelles technologies soient utilisées à des fins positives pour l'humanité, comme la lutte contre la faim ou contre le changement climatique. Interrogée sur leur capacité à diriger le monde, Sophia, un robot, a déclaré que les robots humanoïdes peuvent diriger avec un niveau d'efficacité supérieur à celui des dirigeants humains. Nous n'avons pas les mêmes préjugés ou émotions qui peuvent parfois obscurcir la prise de décision et nous pouvons traiter rapidement de grandes quantités de données afin de prendre les meilleures décisions, a ajouté le robot. Mais Sophia a également assuré que la collaboration entre les humains et l'intelligence artificielle peut créer une synergie efficace et permettre de réaliser de grandes choses. La recherche sur l'intelligence artificielle est en plein essor et les Nations Unies appellent à créer des règles et des garde-fous pour que ces technologies profitent à l'humanité sans courir vers des dangers comme des pertes massives d'emplois, les disparités économiques et la désinformation.
Mamadou Onfa, le président sénégalais Macky Sall s'exprime sur ses motivations de ne pas briguer un troisième mandat et parle de ses futurs projets après avoir quitté le pouvoir. Nani Tétalani.
La seule raison pour laquelle j'aurais pu me représenter pour un nouveau mandat, c'est si le pays avait été confronté à une menace sérieuse pour sa stabilité. Mais cette menace n'est pas arrivée, a déclaré Macky Sall, élu en 2012 pour 7 ans et réélu en 2019 pour 5 ans, dans un entretien avec le journal Le Monde, publié ce vendredi. Le Sénégal, pays réputé stable, a connu ses pires troubles après la condamnation le 1er juin de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison dans une affaire de mœurs, un verdict qui rend M. Sonko inéligible en l'état. Le chef de l'État sénégalais estime que les auteurs de ces violences ont des complices qui ont tenté de déstabiliser le Sénégal. Il a cité la France, où le parti La France Insoumise a soutenu ces violences. C'est une ingérence inadmissible. Il a en outre trouvé inélégant que Paris missionne en mars une conseillère de l'Élysée pour rencontrer Ousmane Sonko. Le président Macky Sall a ajouté qu'il aimerait se mettre au service de l'Afrique et du monde après avoir quitté le pouvoir.
De son côté, l'opposant Ousmane Sonko promet des élections sénégalaises dans un chaos indescriptible si sa candidature à la présidentielle de 2024 est empêchée. Il a dit hier jeudi lors de sa première prise de parole depuis que le président Macky Sall a annoncé lundi de ne pas briguer un troisième mandat. Nous y reviendrons dans notre page magazine. Cette militante de la société civile au Burkina Faso, accusée d'avoir voulu préparer un complot en vue de déstabiliser le pays, ont été condamnées ce vendredi à des peines de 6 à 48 mois de prison par le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Des prévenus étaient jugés depuis début juin pour avoir diffusé des messages audio sur les réseaux sociaux appelant à incendier le palais du Mogonaba, chef traditionnel des Mossi. Kenya, des manifestations contre les nouvelle taxe à Nairobi, la police a fait usage de gaz lacrymogène sur un convoi de l'opposition à marge des protestations contre la vie chère au Kenya. Alexandrine Rolemion.
La capitale kenyane a été placée sous haute surveillance policière ce matin. Les tirs de gaz lacrymogène ont visé le cortège du chef de l'opposition Raila Odinga qui venait de prononcer un discours lors d'un grand rassemblement. Des manifestants ont été également dispersés dans la ville portuaire de Mombasa. L'alliance Azimio de Raila Odinga avait appelé à des manifestations contre l'impact des nouvelles taxes sur les Kenyans. La semaine dernière, le président a promulgué une loi de finances qui prévoit une hausse de la TVA sur les carburants de 8 à 16%, ainsi qu'un prélèvement sur les salaires. Mais vendredi dernier, un tribunal de Nairobi a suspendu la mise en œuvre de la législation. Un sénateur avait déposé une plainte contestant sa légalité constitutionnelle. En dépit de cette décision, le régulateur national de l'énergie a annoncé plus tard dans la journée une hausse des prix à la pompe pour tenir compte du doublement de la TVA à 16% comme stipulé dans la loi.
L'Union européenne a fermement condamné ce vendredi la présence militaire rwandaise dans l'est de la RDC pour appuyer la rébellion du M23 dans une nouvelle déclaration de Joseph Borrell. Au nom de l'Union européenne, les Européens réitèrent leur demande urgente de retrait des troupes rwandaises appuyant le mouvement. MSF réclame ce vendredi la reprise immédiate de la distribution d'aide alimentaire en Éthiopie, suspendue depuis juin, constatant des niveaux alarmants de malnutrition dans le pays. Les forces de soutien rapide au Soudan ont attaqué ce vendredi une ville au sud de Khartoum, a rapporté des habitants. Ces paramilitaires pillent les banques et les bâtiments publics de la ville de Bara, le chef-lieu du Kordofan Nord. L'Algérie a décidé d'octroyer 30 millions de dollars à l'autorité palestinienne pour aider à la reconstruction de la ville de Jénine en Cisjordanie occupée, dévastée par une opération militaire israélienne, rapportait ce vendredi les médias officiels.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, apprenait ce vendredi à Pékin une concurrence saine entre la Chine et les États-Unis, malgré les tensions commerciales entre les deux premières puissances mondiales. Jean-Roger Bion.
Janet Yellen s'est attaquée à l'économie planifiée de la Chine, invitant Pékin à revenir à des pratiques orientées davantage vers le marché. Nous souhaitons une concurrence économique saine, pas la loi du plus fort, avec un ensemble de règles équitables qui puissent bénéficier aux deux pays, a déclaré Mme Yellen lors d'une rencontre avec le Premier ministre Li Qiang. Ces déclarations surviennent alors que certains politiques américains plaident pour une réduction de la dépendance de Washington envers le géant asiatique dans un contexte de montée des tensions géopolitiques. Mme Yellen a préconisé la prudence sur ce point. Un découplage des deux plus grandes économies du monde serait déstabilisant pour l'économie mondiale, a mis en garde la secrétaire au Trésor face à des responsables d'entreprises américaines. Le premier ministre chinois Li Qiang a quant à lui souligné une éclaircie dans les relations entre Pékin et Washington.
Les dirigeants des 31 pays membres de l'OTAN vont réaffirmer lors du sommet de Vilnius la semaine prochaine que l'Ukraine deviendra un jour membre de l'Alliance, a déclaré ce vendredi le secrétaire général Jens Stoltenberg, sans toutefois donner d'indication de calendrier. Le président ukrainien attendu lors de ce sommet les 11 et 12 juillet réclame de l'OTAN des engagements clairs sur une perspective d'adhésion une fois que la guerre déclenchée par la Russie sera terminée. Les alliés cherchent encore une ligne commune sur les garanties de sécurité qui sont prêts à accorder à Kiev et sur l'intervention à l'Ukraine à rejoindre à terme l'OTAN. Les autorités sanitaires américaines ont pleinement autorisé jeudi un nouveau traitement contre Alzheimer, permettant ainsi de le rendre plus accessible via le système fédéral d'assurance santé. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la minute Echo présentée ce soir par Jean-Roger Guillon.
Le Niger a lancé des distributions gratuites de milliers de tonnes de vivres à des paysans frappés par les mauvaises récoltes. Les premières distributions ont débuté dans la région de Tillabéri, proche du Mali et du Burkina Faso. Les distributions de 42 900 tonnes de céréales vont s'étaler jusqu'au mois d'août pour 1,5 million de personnes dans les 8 régions du pays. En Côte d'Ivoire, les petits pêcheurs chôment pour protéger les poissons. Le ministère ivoirien des ressources animales et halieutiques a instauré plusieurs périodes de repos biologique pour la pêche artisanale comme industrielle pour protéger les ressources et augmenter la production de poissons. Pour suivre ces jours-ci, les femmes achètent et revendent des poissons congelés. Un accord pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du fret maritime, secteur très polluant, a été conclu par les pays membres de l'Organisation maritime internationale. Cet accord prévoit des objectifs indicatifs de réduction des émissions polluantes d'au moins 20% d'ici 2030, mais avec en vue moins 30% et d'au moins 70% d'ici 2040, avec en ligne de mire moins de 80% par rapport à 2008.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Nanit Talani ce soir. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Cannes U23, le Mali et la Guinée jouent un match de barrage décisif ce vendredi soir au stade Ibn Battuta de Tanger au Maroc.
Oui, une rencontre importante devant déterminer quelle équipe assurera la troisième place pour le continent africain aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 en France. Pour l'entraîneur du Mali, Badara Alou Diallo, ses poulains s'étaient préparés méticuleusement, physiquement et mentalement, pour utiliser des tactiques stratégiques afin d'assurer la victoire et la qualification olympique, malgré une courte défaite 4-3 au tir au but contre le pays hôte, le Maroc. Quant à Morley Cissé, l'entraîneur-chef de l'équipe de Guinée, il a souligné l'importance de la force mentale et de la concentration de son équipe.
Coupe COSAFA, le Malawi crée la première surprise de cette compétition qui se déroule actuellement à Durban, en Afrique du Sud, en battant dans le groupe B la Zambie, championne en titre 1-0 au stade King Zwelithini ce jeudi.
C'est un malheureux but contre son camp du défenseur zambien en première mi-temps, Aaron Katebe, qui a suffi au Malawi pour remporter une victoire aussi vitale que remarquable, car c'était la première rencontre contre la Zambie, 6 fois champion de la Coupe COSAFA depuis 2015. Dans le précédent match du groupe B, les Comores avaient battu les Seychelles 3-0, prenant la tête du groupe B devant le Malawi grâce à cette différence de but supérieure. La défaite des champions en titre les place en 3e position devant les Seychelles qui affronteront le Malawi lors de leur prochain match. La Zambie affrontera les Comores dans un match à gagner pour avoir une chance de défendre son titre. Ce soir, dans le groupe C, l'Angola affronte Maurice alors que les Mamba du Mozambique seront face au Lesotho. Les deux matchs auront lieu au stade King Zwelithini dans le canton d'Umlazi à Durban, en Afrique du Sud.
La FIFA a nommé ses tout premiers experts intégrité, indépendants et des conseillers juridiques bénévoles.
La FIFA a choisi 21 experts intégrité indépendants et 20 conseillers juridiques bénévoles. Les experts intégrité indépendants aideront la FIFA à préserver et promouvoir l'intégrité du football à l'échelle mondiale, tout en offrant un soutien spécialisé aux acteurs du football. Ils aideront aussi à l'instruction des potentielles infractions à la réglementation de la FIFA et réuniront des preuves valables, interagiront avec les tiers et vont aussi représenter ou soutenir la FIFA au cours des procédures. Quant aux nouveaux conseillers juridiques bénévoles, ils seront un rouage essentiel du système d'assistance juridique de la FIFA, garantissant les droits des individus ne disposant pas des moyens financiers pour se défendre lors de procédures menées devant les organes juridictionnels de la FIFA. Ils contribueront donc à garantir un accès équitable à une juste représentation. Cette activité va dans le sens, soulignons-le, des efforts constants déployés par la FIFA en faveur de la mise en application des droits individuels.
Et c'est tout pour les sports. Merci Nanit.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manela Kidza de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko promet qu'il n'y aura pas d'élection ou bien ce sera dans un chaos indescriptible si par des combines judiciaires, le président Macky Sall voulait empêcher sa candidature à la présidentielle l'année prochaine. Idriss Fall a recueilli la réaction de l'analyste politique et écrivain Ibrahima Fall, fondateur de l'ancien journal satirique Le Tirailleur sénégalais.
Moi, je pense que ce monsieur a perdu le sens des réalités depuis assez longtemps. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il lance ce genre de propos. Rien qu'aux législatives, aux dernières législatives, il avait tenu le même propos si sa liste n'était pas validée. Les élections se sont tenues sans que sa liste ne soit validée et il n'a rien pu y faire. Et ça, ce n'est qu'un des épisodes de toute la longue liste de déclarations qu'il fait. Et qui sont vraiment forts. Je pense qu'ils se surestiment, soit ils sous-estiment ce que peut faire l'État sénégalais. Parce qu'il s'est mis à défier les institutions, à refuser de répondre à la justice en pensant qu'il ne sera jamais jugé. Il a été jugé deux fois et condamné deux fois. Actuellement, il est inéligible et je pense que les élections peuvent se faire, ne peuvent pas se tenir sans lui. Ça veut dire qu'au fond, je pense qu'il a perdu le sens des réalités. En plus, je pense qu'il a perdu le sens des réalités. Or, quand on est quand même lucide, on se rend compte qu'on n'est pas indispensable à son pays. Ça, c'est la lucidité qui nous l'apprend. Mais ce monsieur, je crois, a perdu justement ce sens des réalités. Et ça fait longtemps, parce que, bon, il a eu un score exceptionnel à la dernière présidentielle. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est parti en vrille. Parce qu'on a commencé à l'appeler président, il y a une sorte de protocole, des gardes du corps et tout ça. Et ça, avant même d'avoir été élu à la présidence, et je pense que quand on est déjà dans cet état d'esprit, on perd le sens de réalité. Et c'est ça qu'il a perdu, parce qu'il est entré dans une logique où il se sentait au-dessus de tout et de tout le monde. Et il a multiplié les erreurs politiques. Je donne un exemple très simple. Il aurait dû se présenter à la ville du Dakar. Il a voulu jouer le grand seigneur en se disant qu'il laisse la place de maire de Dakar à un de ses alliés. Et ça se retourne aujourd'hui contre lui. Parce qu'il pensait que même s'il n'était pas député maire de Dakar, lui, Ousmane Sonko, aurait plus de poids que le député maire de Dakar. Ce qui a été une erreur fatale. Il a enchaîné toutes ces choses-là parce que je pense que depuis des années, depuis deux ou trois ans, il a perdu le sens de réalité.
Mais est-ce qu'on peut vouloir diriger un pays en bafouant la justice de ce pays?
Mais c'est ce que je dis, c'est toujours cette logique. Il a pensé qu'il était déjà élu à la présidence et qu'il vivait d'une immunité. Parce que ce qui lui est arrivé pour être condamné pour diffamation, c'est qu'il a été connu du grand public alors qu'il était député à l'Assemblée nationale. Et donc, ses propos, il était impuni parce qu'il avait été immunité par le monde. En ce temps, il l'a perdu. Et il a continué à faire des déclarations fracassantes en oubliant qu'il avait perdu son immunité parlementaire. C'est ça qui l'a fait condamner et c'est ça qui le rend inéligible aujourd'hui.
Ibrahima Fall, fondateur de l'ancien journal de satirique Le Tirailleur sénégalais.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Human Rights Watch appelle la Tunisie à mettre fin aux expulsions de migrants d'origine d'Afrique subsaharienne vers le désert. L'ONG indique qu'ils se trouvent en situation très précaire dans une zone désertique dans le sud de la Tunisie, après avoir été chassés ces derniers jours de la ville de Sfax, dans le centre-est. Nous avons joint Lorraine Schaeber, chercheuse sur les droits des réfugiés et des migrants auprès de Human Rights Watch.
Bon, c'est ce qu'on espère, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de réaction officielle de leur part. Nous avons sollicité un commentaire ou bien des informations au minimum et ils ne nous ont pas répondu. Et ça semble que c'est une stratégie pour continuer de faire sortir des migrants des pays de l'Afrique subsaharienne, de les sortir de Sfax en particulier et les exposer vers la Libye pour la plupart. Mais aussi, il y a des rapports qu'il y a d'autres exposés vers l'Algérie. Et c'est vraiment la manière dans laquelle ces explosions ont lieu, c'est vraiment incompréhensable. Ils n'ont vraiment pas respecté leurs droits, pas du tout.
Quelles sont les autorités tunisiennes que vous avez essayé de contacter?
Oui, en fait, c'est de la part de ma collègue, notre chercheuse et directrice de la Tunisie. C'est elle qui a essayé de contacter des représentants de plusieurs ministères, y compris le ministère de l'Intérieur. Elle a contacté des représentants, mais et aussi Défense et Affaires étrangères, mais ils n'ont pas répondu. Ou bien, ils n'ont pas donné d'informations, je peux dire.
Est-ce que ce qui se passe actuellement aurait un lien avec le discours du président Kais Saied tenu contre les migrants?
Oui, c'est sûr que la situation à Sfax a dégradé, a détérioré de plus après les paroles du président en mois de février. Donc, ça a vraiment exacerbé les tensions entre des Tunisiens habitants de Sfax et aussi des étrangers. Et parce que les paroles du président, il a parlé d'un lien entre des migrants dans un état irrégulier et le crime et des autres problèmes de la Tunisie. Et donc, avec des paroles comme ça, la population peut saisir ces paroles et les utiliser pour justifier leurs actions de violence ou d'essayer d'exposer des migrants africains de leur ville.
Est-ce que vous avez la possibilité d'atteindre le président tunisien? C'est lui qui peut arrêter cette situation.
Bon, c'est ce qu'on espère, mais ça semble qu'il est dans une position, bon, il n'écoute pas. Et même si vous voyez dans l'article que nous avons publié, le communiqué que nous avons publié, et on a mis là-dedans, il y a une petite déclaration du président après sa visite à Sfax, et il a parlé du crime, il a toujours souligné le crime, et ce qu'il fait, c'est d'encourager les réactions très fortes contre les migrants africains, subsahariens, de la part de la population. Et il a parlé encore d'appliquer les droits sur la migration. Il a dit que la Tunisie n'accepte pas d'être une zone de transit ni de zone d'accueil ou quelque chose comme ça pour de nombreuses personnes arrivant de plusieurs pays de l'Afrique. Et ça, c'était une déclaration du 4 juillet. Donc, ça semble qu'il ne donne pas d'importance aux droits des personnes. Toujours, il focalise sur la crime et l'application des lois sur la migration.
Lorraine Schreiber, chercheuse sur les droits des réfugiés et des migrants auprès de Human Rights Watch.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Élevée par une mère vendeuse de café, Marceline Bouza, une entrepreneuse congolaise, a fondé Rebuild Women's Hope et redonné l'espoir aux femmes, qui mène des actions sur l'île d'Idjoui au sud Kivu en faveur de l'autonomisation des femmes rurales. Rebuild Women's Hope s'est spécialisée dans la production de café et emploie des milliers de femmes. C'est un reportage de Zamem Neti Zaidi.
C'est dans une ambiance conviviale que Marceline Bouza et quelques femmes de son organisation procèdent au séchage du café, étape importante avant sa commercialisation. Marceline a fondé l'ONG Rebuild Women's Hope il y a plusieurs années dans le seul but d'autonomiser les femmes par la culture du café.
Au fait, on travaille le café dans le but d'augmenter le pouvoir économique de la femme. Et donc, comme derrière moi, vous voyez, les femmes sont en train de travailler le café avec passion, avec amour. Et ils produisent du très bon café qui permet aussi à améliorer leur vie économique.
Le travail que ces femmes accomplissent avec passion et amour a porté ses fruits. Aujourd'hui, elles peuvent facilement subvenir aux besoins de leur famille, ce qui n'était pas facile auparavant en raison du manque d'emplois rémunérateurs, explique Sifa Safari, une caféicultrice.
Mon travail ici est de trier et de sécher le café pour voir comment je peux m'occuper des enfants. Nous remercions cette initiative. Elle nous aide car avant nos enfants mouraient de faim, mais aujourd'hui avec cette usine, nos dépenses sont couvertes en tant que parents.
Les efforts de ces femmes, estimés à plus de 3500 pour valoriser le café arabica produit ici à Idjui, dans la province du Sud-Kivu, certes, malheureusement, à un certain nombre de défis liés à la discrimination sexiste et aux tracasseries. Mais Marceline rêve encore plus grand.
Parfois, les hommes ne parviennent pas à considérer le travail de la femme. On sous-estime toujours les femmes. Notre projet à venir, c'est d'ouvrir un grand centre d'apprentissage de métier où on pourra encadrer plusieurs femmes, mais aussi exporter beaucoup plus de café.
Cette coopérative, en grande partie féminine, existe depuis plus de 5 ans. Pour la récente saison, elle a produit 7 containers de café. Zanem Netizaïdi pour VOA Afrique, Idjui.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Kenya, on parle d'une radio qui, dans la capitale donc kenyane, Nairobi, une station de radio a su fidéliser son public en émettant dans une langue dite de la rue. Le Sheng est un dialecte qui s'inspire de l'anglais, du swahili et d'autres langues établies. Un reportage de Victoria Amunga à Nairobi, le récit signé d'Ilidiko.
Ghetto Radio s'adresse aux jeunes défavorisés et ceux de la classe ouvrière de Nairobi en présentant des informations et des programmes d'actualité dans un langage de rue populairement connu sous le nom de Sheng. Julius Andijo, surnommé Maji Maji, a fondé la station il y a 15 ans. L'objectif, dit-il, était de combler un vide pour les jeunes, en particulier ceux des bidonvilles qui avaient du mal à s'adapter au mode de communication des médias traditionnels.
Nous avons pensé que pour améliorer la communication, il fallait combler le fossé. Une station qui leur ressemble, qui parle comme eux, qui joue ce qu'ils veulent entendre et qui, surtout, donne une chance à la musique urbaine kenyane de se développer.
Au moins 30 jeunes sont employés à la station, dont des présentateurs, des producteurs et du personnel marketing. Selon M. Andijo, le fait de tenir les jeunes informés dans leur propre langue leur a permis de s'engager avec facilité.
Nous discutons des questions d'actualité qui sont pertinentes pour les jeunes, le public cible. Nous parlons de divertissement, nous dressons le profil de la musique kenyane dans le but de la développer. Nous présentons l'art kenyan intentionnellement, délibérément pour développer l'industrie. Nous parlons aussi de justice, de questions politiques qui affectent les gens. Nous parlons de la vie.
L'audience s'est élargie aujourd'hui. Des quartiers chics et dans certains cas aux personnes qui empruntent les transports publics. Elijah Munyoki, un fan et auditeur, dit qu'il comprend mieux les discussions de ghetto radio que celles d'autres stations.
Ils nous éduquent, ils ont beaucoup plus d'auditeurs que les radios dans d'autres langues, c'est la tendance à Nairobi. Beaucoup de gens ont été élevés à Nairobi. Ils sont nés ici, du coup, quelle langue allez-vous leur demander de parler ?
Le Conseil des médias du Kenya met en place un cours qui permettra aux journalistes de suivre une formation sur le contenu local, y compris la radiodiffusion en Sheng.
Comment faire un reportage sur les questions de santé, un reportage sur le coût de la vie en Sheng? Nous devons contribuer à renforcer les capacités. Nous voyons aujourd'hui que certaines plateformes numériques sont en Sheng. C'est donc un groupe que nous ne pouvons pas ignorer.
Les responsables de Ghetto Radio disent qu'ils espèrent agrandir la radio pour créer plus d'opportunités de travail pour faire face au nombre croissant de jeunes demandeurs d'emploi dans le domaine des médias.
Le mot d'aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manilakiza à ce micro, à la mise en onde, Georges et Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et sur votre page Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.